On ne découvre pas que le rugby est un sport de contact, mais c'est vrai qu'on voit beaucoup de blessures dans cette Coupe du Monde, une chez les Français, deux chez les Australiens entre autres. Le Pompon, c'est le pays de Galles en ce moment, avec 8 joueurs en moins, une épaule cassée, deux sorties sur civière lors du match contre l'Angleterre. C'était le dernier et ça fait beaucoup. Bonjour Romain Beaufort.
Bonjour.
Vous êtes médecin du sport à la clinique Drouot à Paris. Le professionnalisme dans le rugby, docteur Beaufort, fait que les joueurs sont plus sollicités, qu'ils sont mieux préparés aussi physiquement, sans aucun doute. Mais du coup, est-ce que vous sentez aussi qu'il y a une fragilité en fait plus importante ?
Une fragilité, surtout une plus grande exposition en fait à des risques un peu plus conséquents. Les blessures, en fait, elles n'ont pas forcément augmenté franchement en nombre, mais surtout en gravité. Ce qu'on a remarqué en fait depuis 1995 et la professionnalisation du rugby, c'est que les joueurs, effectivement, il y a un gros accent qui est mis sur la préparation physique, avec des gabarits qui ont beaucoup augmenté, avec environ, depuis ces 25 dernières années, une prise de 5 cm et à peu près une quinzaine de kilos sur l'ensemble des joueurs qui sont beaucoup plus explosifs et du coup, des impacts qui sont beaucoup plus sévères en fait. On est passé d'un sport de contact, comme le disait un certain confrère, à un sport de collision. Ce qui fait que, par exemple, dans le rugby anglais, on est passé de 2002 à 2013 de 800 blessures par an dans le rugby pro à 600 blessures. Mais ces blessures ont engendré une augmentation du nombre de jours d'absence. Les joueurs sont moins blessés, mais ils sont plus souvent absents parce que les blessures
sont
plus graves.
Bah, je parlais à l'instant du Pays de Galles. C'est vrai qu'une épaule cassée lors d'un engagement, il faut que ce soit effectivement violent. Plus d'engagement, donc des joueurs nettement plus costauds, tout ça, mis bout à bout, ça fait beaucoup.
Ce qu'on a remarqué dans le rugby français, par exemple, c'est qu'entre 2008 et 2013, les joueurs pros étaient exposés 8 fois plus que les amateurs à une luxation d'épaule. Parce que, effectivement, ce qu'on voyait auparavant, il y a 10, 15, 20 ans, c'était plutôt des blessures musculaires, des claquages, des joueurs qui n'étaient pas forcément bien préparés au niveau physique, parce qu'à côté de ça, ils avaient parfois un emploi ou la professionnalisation. Maintenant, les blessures musculaires, les joueurs sont ultra encadrés, on cible leurs déficits pendant l'intersaison, on corrige ça par une préparation. En revanche, ils sont beaucoup plus performants, ils courent plus vite, donc les impacts sont sérieux. Et à l'heure actuelle, la blessure la plus fréquente et qui intéresse tout le monde, c'est la commotion cérébrale. Ouais. Et même s'il y a des protocoles qui sont clairement établis au niveau international, c'est pas toujours facile de les respecter au rugby au plus haut niveau parce qu'il y a des enjeux qui sont énormes. Mais effectivement, les blessures à l'heure actuelle sont beaucoup plus des blessures traumatisantes au niveau du rachis cervical, au niveau des articulations telles que les épaules sur les plaquages.
Alors, j'allais vous parler effectivement de ces traumatismes crâniens. Et j'entends d'ici les fans de rugby hurler, mais on entend ce débat aux États-Unis, par exemple, avec le football américain. Est-ce qu'on peut imaginer, avec un sport devenu plus frontal, des protections sur le modèle de celle du foot américain, finalement? Vous, le médecin, en tout cas, si c'était possible, vous diriez qui vaut mieux?
Les protections, en fait, elles changent pas tellement parce que, au contraire, parfois, on sait que l'usage du casque, notamment au rugby, peut amener à croire à malheureusement une protection un peu dérisoire. Et parfois, certains joueurs qui ont subi un KO peuvent se dire la prochaine fois, je vais porter un casque et je vais être protégé, puis je vais pouvoir retourner plus facilement sur le terrain. Or, c'est pas tellement la petite protection en mousse du casque ou le casque des footballeurs américains qui les protège vraiment. Quand vous prenez un choc pleine face, quand deux joueurs qui s'affrontent en courant à 20-30 à l'heure se percutent frontalement, la protection du casque, elle est dérisoire par rapport au mouvement en fait de freinage que subit le cerveau dans la boîte crânienne. C'est ça qui est très traumatisant dans la commotion cérébrale, c'est le fait que le cerveau a une capacité un petit peu de flottement dans la boîte crânienne et l'impact vraiment direct, le choc qui va être subi, c'est vraiment la conséquence du va-et-vient du mouvement avant-arrière qui va cisailler les neurones, qui va poser des lésions.
Comme les boxeurs c'est le même genre de traumatisme.
Exactement.
Que ceux des boxeurs.
On voit de plus en plus, d'ailleurs, c'est la fameuse démence pugilistique ou l'encéphalopathie chronique post-traumatique qu'on voit chez les boxeurs, de plus en plus chez les joueurs de NFL aux États-Unis, et également on commence, mais je pense qu'on va surveiller ça de près, avoir ça au rugby. Donc le port du casque, parce que ça protège quand même des plaies.
Cotter sur une jambe de bois, quoi, vous dites.
Un petit peu. Ce qu'il faut surtout, c'est être vigilant et être surtout très, très informé dans l'encadrement des joueurs. Alors, sur les symptômes qui doivent mettre un joueur en repos.
Est-ce qu'il y a une nouvelle responsabilité aussi de la part des arbitres, finalement? Parce que quand le sport est plus violent, est-ce qu'il faut être plus vigilant sur certains plaquages, sur certains coups d'épaule, sur un engagement dans le jeu?
Alors ça, oui. Ça, il y a quand même des règles, hein, qui protègent mieux les joueurs de rugby, les plaquages cathédrales, comme on les appelle, où le joueur était élevé dans l'air et projeté au sol directement, peut-être la première, ça s'est complètement banni, même si malheureusement, il y a encore quelques rares accidents. Et le dernier, c'était en 2014, je crois, avec un joueur gallois qui, malheureusement, depuis est paralysé, mais ça reste maintenant exceptionnel. En revanche, les règles qui protègent mieux les joueurs de ce genre d'accidents vraiment malveillants font que le rugby est devenu plus efficace. Le temps de jeu a beaucoup augmenté. Le temps de jeu effectif, lors de la dernière finale de Coupe du Monde, c'était 37 minutes, presque la moitié du temps officiel, versus 21 minutes en 87, je crois, lors de la première Coupe du Monde. Donc le temps de jeu est beaucoup plus grand. Il y a beaucoup plus de passes, il y a beaucoup plus d'actions avec une certaine vélocité et des impacts. Il y a moins de phases statiques, un peu lentes, comme des touches et des mêlées. Il y en a beaucoup moins qu'avant. Il y a beaucoup plus de plaquages. Et du coup, le risque est quand même bien accru par ces règles qui structurent le jeu, mais qui exposent plus les joueurs à des impacts qui paraissent moins anodins qu'un plaquage cathédral, mais qui sont beaucoup plus répétés.
Et puis, docteur Beaufort, pardonnez-moi, je peux pas vous laisser sans la question tabou, mais il y a aussi le sujet du dopage, en fait, hein, au final. Et quand on voit la taille des joueurs qui a tellement changé ces 10 dernières années, la question, elle se pose aussi. On ne peut pas s'empêcher de se demander s'il n'y a pas aussi une relation.
C'est pour ça bien sûr, parce que forcément, recherche de performance est égale, malheureusement, dans le sport, parfois des comportements illicites qui sont à la marge et qu'il faut bannir le plus possible. Il n'y a pas de question tabou. C'est pour ça que le dopage est toujours au centre des réflexions chez les sportifs pros et qu'il faut le rechercher et le combattre. Mais on sait que le rugby en est pas exempt. Ouais. Maintenant, c'est surtout les spécificités du rugby moderne au niveau des impacts qui sont
responsables de ces blessures.
À surveiller.
Merci beaucoup.
Le dopage va peut-être augmenter de quelques kilos ou de quelques dixièmes de kilomètres heure la vitesse du joueur sur un sprint, mais c'est pas ça qui va fondamentalement changer la face du problème.
Et au moment de l'impact. Merci beaucoup, docteur Beaufort. Merci encore, médecin du sport à la clinique Drouot à Paris sur France Info.